Le texte que nous allons commenter se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 1 à 6. En voici la lecture. Écoutez-moi, vous les gens riches. Pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites. Votre or et votre argent sont rouillés, cette rouille vous accusera. Elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Leur salaire crie vengeance et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez recherché sur la terre le plaisir et le luxe. Vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Alors nous continuons notre petite étude, si j'ose dire, de l'épître de Saint Jacques. Et de nouveau, Saint Jacques s'en prend aux riches. Alors avant de continuer, je ne vais pas réintroduire l'épître de Saint Jacques. Je vous conseille de regarder le premier enregistrement que j'ai fait sur Saint Jacques. Vous aurez une petite introduction à cet épître. Mais disons simplement que ce qui caractérise beaucoup l'épître de Saint Jacques, c'est son côté social. Et son côté virulent contre les riches, effectivement, la lecture littérale qu'il faut d'abord avoir de cet épître est bien celle-là. Donc, dans les premières communautés chrétiennes, il y avait probablement, c'est ce que Paul dit d'ailleurs dans sa première épître aux Corinthiens, quand il parle de l'Eucharistie, de la Sainte Cène, il y a probablement des gens riches qui n'avaient pas compris que être chrétien, c'était aussi partager ses biens. Donc, le premier message qu'il ne faut pas négliger, c'est que, effectivement, si l'on considère que la vraie vie est ailleurs, alors il ne faut pas s'attacher à notre confort, surtout quand celui-ci nourrit notre égoïsme et tue notre charité. Alors, maintenant, après cette lecture littérale, enfin, peut-être une petite parenthèse avant, pourquoi donc la Bible en général est si critique vis-à-vis des richesses? Et du riche en général. C'est parce que être riche financièrement entraîne très souvent une richesse d'esprit, mais au sens négatif, hein, parce qu'on peut être riche spirituellement, etc., et ça peut être positif. Pourquoi donc est-ce si dangereux d'être riche matériellement et par voie de conséquence, être riche, disons, d'un point de vue, enfin pas spirituel, mais d'un point de vue, on va dire, morale intérieure. Eh bien, c'est parce que si l'on se considère riche, on n'a tout simplement pas besoin des autres, à commencer par Dieu. Finalement, combien de gens on croise dans notre vie, nous chrétiens, et on se dit, mais ils n'ont pas besoin de Dieu, parce qu'ils sont riches d'eux-mêmes, ils sont riches de leur vie matérielle, de leur petit bonheur, de leur petite sécurité, des sécurités qu'ils se sont fabriquées, ils sont riches, riches, riches. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être très riche matériellement pour être riche, au niveau moral, au niveau de l'esprit, riche à s'en couper de Dieu. Donc voilà pourquoi la Bible est si critique des richesses en général. C'est moins une critique, disons, de l'argent en tant que tel, parce que l'argent, on peut en faire des choses bien, et on ne demande pas forcément de nous démunir nous-mêmes, au point de devenir très pauvre, puisque nous avons parfois des obligations familiales, etc. Mais disons, il y a un danger de s'accrocher aux richesses matérielles parce qu'elles nous font oublier Dieu, elles nous font oublier que nous sommes pauvres et que nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Et donc, même si nous n'avons pas de l'argent à mettre en coffre-fort, il y a ce danger de s'attacher aux richesses matérielles, de se sentir riche, et pas forcément matériel, mais on est riche de sa propre force, enfin ce qu'on croit être notre propre force. On peut se sentir riche de son intelligence, de sa culture, de beaucoup de choses. Eh bien, c'est ça aussi que critique Saint Jacques. Et maintenant, justement, ce glissement vers la richesse du matériel, vers la richesse du cœur, cette richesse qui peut être négative, eh bien, nous entraîne vers, de nouveau, la lecture spirituelle de la parole de Dieu. Je vais prendre la lecture, disons, l'interprétation très classique dans l'Église, qu'on appelle tropologique ou morale. Alors ici, morale est au sens intérieur ou au sens de la vie quotidienne. Regardez bien, ce texte va prendre une toute autre, enfin une coloration, disons, pas tout autre, parce que le fondement est le même, mais une coloration relativement différente. Alors je vous propose de relire un petit peu ce texte. Écoutez-moi, vous les gens riches, pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Quel message d'espérance! Parce que ici, symboliquement, les gens riches, c'est tout ce qui fait obstacle à Dieu en nous et en nos frères, notamment pour ceux pour qui nous prions qu'ils ne connaissent pas Dieu. Eh bien, la parole de Dieu avertit tout ce qui fait obstacle à Dieu, que le malheur les attende, que vraiment tout ça va tomber. Il faut que l'on ait ce regard d'espérance par rapport à nos propres défauts, par rapport à ce qui fait dans nos vies obstacle à Dieu, dans notre cœur. C'est une question de temps avant que tout s'écroule. De même pour les frères qui sont loin de Dieu, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui semblent riches, eh bien tout ce qui fait ce mur, tout ce qui fait obstacle, eh bien écoutez l'avertissement que leur donne la parole de Dieu. Écoutez, vous tous qui faisiez obstacle dans les cœurs, dans les vies à Dieu, lamentez-vous car des malheurs vous attendent. Pour paraphraser le texte. Maintenant reprenons le texte. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites. Votre or et votre argent sont rouillés, cette rouille vous accusera, elle dévorera vos chairs comme un feu. Eh bien voilà, tout ce qui fait obstacle à Dieu n'est que temporaire, c'est qu'une question de temps, c'est rouillé, c'est en fin de vie. Et justement, ce qui va précipiter la chute de ce qui fait obstacle dans nos cœurs à Dieu, de ce qui fait obstacle à Dieu dans ce monde, là c'est plutôt la perspective dite anagogique, c'est-à-dire on élargit la perspective vers la fin des temps, vers le ciel, tout ce qui fait obstacle dans nos cœurs, dans le cœur de nos frères, à l'action de Dieu dans ce monde, eh bien, ce qui va précipiter la fin, eh bien, c'est le péché lui-même. Cette rouille vous accusera, elle dévorera vos chairs comme un feu. C'est pour ça que dans nos vies, quand nous sommes parfois confrontés à un malheur, ou à la dépression, ou à certaines choses, ce n'est pas toujours négatif. Cela peut être un signe que quelque chose travaille, que nous commençons petit à petit à avoir plus conscience ou une conscience plus aiguë du péché. Et ceci va nous conduire à nous ouvrir davantage dans la prière à la grâce de Dieu. De même, nos frères, pour qui nous prions, eh bien parfois, il ne faut pas leur souhaiter, mais parfois un malheur, eh bien, peut les ouvrir à Dieu, surtout si nous avons prié en amont. Et de même, dans ce monde, c'est pareil, quand il y a des crises, etc., cela peut être source de salut quand ces crises, etc., sont fécondées par notre prière et notre présence de chrétien. Continuons. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. Voilà l'erreur. Et c'est ça que nous apprend la Bible. Il faut avoir le regard tourné vers le haut. C'est le psaume 120 ou 121 selon les numérotations. D'où me viendra le secours, pardon? Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est ce qui nous manque. Notre monde ne lève pas les yeux. Nous-mêmes ne levons pas assez les yeux. Nos frères ne lèvent pas assez les yeux. Et c'est ça le grand péché. C'est le manque de foi. Et ce manque de foi, eh bien, débouche sur un manque d'amour envers Dieu. Et si on manque d'amour envers Dieu, on manque d'amour vers nos frères, parce que nous les sommes englués dans la vie matérielle qui est fondée sur les apparences. Et c'est bien ça le problème. Il faut être conscient que nous sommes dans les derniers temps. Quand tu pries pour quelqu'un, il est dans les derniers temps. Ce qui fait obstacle à Dieu, comme vient de nous lire la parole de Dieu, vit ses dernières heures, même si ça dure des mois, des années, c'est quand même les dernières heures. Il faut avoir ça en tête, parce que dans ce cas-là, nous serons plus patients, plus indulgents. Par rapport aux épiphénomènes, par rapport à ce qui encore peut faire obstacle à Dieu, sachant que ce ne sont que des soubresauts avant la victoire finale, parce que nous sommes dans les derniers temps. De même par rapport à nous-mêmes. Il n'y a pas de raison de déprimer face à notre péché, face à nos erreurs, si nous savons que tout ce qui fait obstacle à Dieu dans nos cœurs, si nous avons un repentir sincère, si nous nous laissons travailler par la grâce de Dieu, nourris par sa parole, par la prière, eh bien, tout ça va fondre comme neige au soleil, parce que tout ce qui fait obstacle à Dieu aussi dans nos vies, dans nos cœurs, eh bien, cela vit ses derniers temps. D'ailleurs, pensez bien à cette chose-là. La prière, c'est comme un grand soleil, c'est comme Dieu, c'est comme le soleil, et quand nous nous exposons à Dieu dans la prière, nous faisons notre petite séance d'UV, eh bien notre âme va bronzer aux teintes du soleil, ou pour utiliser une autre image, eh bien toute cette neige qui fait obstacle à Dieu va fondre au soleil de la prière et au soleil de la parole de Dieu. De même, ne soyons pas découragés quand nous voyons ce monde visible, tellement axé sur l'argent, sur la vie matérielle, eh bien, toute cette mentalité va vivre ces derniers temps. Et pourquoi la suite du texte nous le dit? Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Leur salaire crie vengeance et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez une magnifique description en image de ce qu'est l'exaucement de la prière. Les travailleurs, c'est nous. Nous, chrétiens, nous fécondons ce monde par notre prière. Nous fécondons d'abord notre propre terre. Nous prions Dieu de nous changer. Nous prions Dieu d'agir dans le cœur de nos frères. Nous prions Dieu d'agir en ce monde. Et en apparence, effectivement, nous moissonnons pour pas grand-chose. Nous avons l'impression que nos prières ne sont pas payées de retour. Nos actes de charité, qui ne, je le rappelle, qui sont un prolongement de la prière, ceci est prière. Car si nous prions, notre charité s'imbrique dans la prière. Cela devient prière pour épauler notre prière. Donc tous nos actes de charité, de patience, de pardon, de miséricorde, tout ce que nous pouvons faire en ce monde en accompagnement de nos prières, a priori, la parole de Dieu le reconnaît, n'est pas payé en apparence. Mais cela crie vengeance. Et la vengeance de Dieu, comme le dit dans Isaïe, c'est sa miséricorde, c'est sa venue. Eh bien, cela crie vengeance. Et nos revendications, nos prières finiront par arriver aux oreilles du Seigneur. Ça me rappelle l'Apocalypse où les prières des saints s'élèvent aussi comme l'encens du soir. Hein, porté par les saints, je crois, c'est après la cinquième trompette, eh bien, ça va finir par arriver en boomerang, Apocalypse, la cinquième trompette, ça doit être chapitre 9 ou 10, ça revient en boomerang sur la terre, avec la grâce de Dieu qui travaille. Eh bien, tout ça, cette parole de Dieu nous le dit, nos revendications, nos prières sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Et donc, les gens pour qui nous prions, nous-mêmes, ce monde va finir par être fécondé. Dieu va entendre nos prières. En fait, Dieu entend nos prières dès le départ. Le délai qu'il faut, c'est simplement parce que Dieu agit en respectant la liberté des autres. Et donc, il travaille en faisant tomber les obstacles et les réticences, donc tout un par un, pour que la liberté de l'homme soit bien associée à ce travail de la grâce. C'est ça, donc ces revendications vont finir par arriver aux oreilles du Seigneur. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe, vous avez fait bombance pendant que on massacrait des gens, vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Toute personne a en elle ce juste, toute personne a en elle cette semence de Dieu, comme le dit l'Ecclésiaste, la pensée de l'éternité. Et ce qui fait obstacle en nos cœurs, dans le cœur de nos frères en ce monde, à ce juste, car le juste ne résiste pas, le juste respecte la liberté, cette action de Dieu qui est le Christ lui-même, car le Christ lui-même est cette semence qui a fécondé l'humanité sur la croix. Eh bien, ça c'est donc un regard allégorique sur ce texte. Eh bien, ce Christ, le Christ, cette personne, car Dieu est amour et son amour ne peut être qu'une personne bien vivante, Jésus-Christ, eh bien s'est incarné. Jésus-Christ a fécondé le monde en respectant sa liberté, ça lui a coûté très cher, car ça a conduit les hommes à le crucifier, et il a accepté ça. Il n'a pas résisté. Eh bien, cette crucifixion de Christ se reproduit dans les cœurs de chacun. Quand nous refusons de nous laisser guider par l'Esprit du Christ, par l'Esprit Saint, quand nos frères se refusent à Dieu, quand ce monde se ferme à Dieu. Oui, le juste ne résiste pas, il respecte les libertés, c'est pour ça que l'action de Dieu, eh bien, prend beaucoup de temps, mais nous l'avons vu dans le texte, ne nous décourageons pas parce que nos revendications finiront par arriver. Eh bien, justement, l'avertissement est ceci. Donc, le juste, donc, on le condamne le juste, on le tue sans résister. Vous avez recherché la terre et les plaisirs, et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait les gens. Cet avertissement de Jacques, donc, qui est prélude de la fin des temps. Eh bien, c'est tout ce qui fait obstacle à l'action du Christ dans ce monde, dans nos cœurs, dans le cœur de nos frères. Eh bien, c'est tout ce qui est l'égoïsme, tout ce qui nous recentre sur nous-mêmes au lieu de nous ouvrir vers les autres et le tout autre qui est Dieu, en son Fils Jésus. Car Jésus est celui qui nous ouvre au tout autre en nous donnant la possibilité de mettre un visage sur Dieu, de mettre un visage sur la relation personnelle à laquelle Dieu nous appelle. Eh bien, regardez ce texte, il est magnifique d'espérance. Et nous dit Jacques, c'est peut-être pas ce qu'il avait en tête, mais c'est pas parce que l'auteur n'a fait pas l'interprétation plus spirituelle que l'on peut avoir que ce n'est pas une bonne interprétation, car c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur en profondeur. Eh bien, que nous dit l'Esprit Saint à travers Jacques? Que le temps est limité de tout ce qui fait obstacle à Dieu dans nos cœurs, dans le cœur des frères pour qui nous prions, tout ce qui fait l'égoïsme, l'attachement à nos propres, à notre propre confort au détriment des autres, au détriment de Dieu d'ailleurs, en premier. Eh bien, tout ça va arriver à une fin, parce que les travailleurs qui moissonnent, nous chrétiens, nous moissonnons par nos prières, par nos actes de charité, eh bien, toute cette foi, cet amour en Dieu va finir par crier vengeance, et cela arrivera aux yeux de Dieu. Et tout ce qui fait que l'homme s'attache à la vie matérielle, à son confort, plutôt que de s'ouvrir aux autres et à Dieu, eh bien, tout ça va tomber à l'image du Christ qui, bien que crucifié, eh bien, a fini par ressusciter. Il a vaincu la mort. Eh bien, ce juste qui a été crucifié, ce Christ qui est en chacun de nous, que nous bafouons, que nos frères pour qui nous prions bafouent en se sentant riches, que ce monde, à qui ce monde tourne le dos, eh bien, ce juste finira, ce Jésus finira par ressusciter dans les cœurs, dans nos vies. Eh bien, que ceci nous encourage à prier avec plus de ferveur, à redoubler de prières, à redoubler tellement de prières que cela se manifeste, se traduise, se prolonge dans notre vie par plus de patience, d'amour, d'indulgence par rapport à nos frères et par rapport à ce monde, moins de jugement, parce que nous savons que les derniers temps sont arrivés et que tout se passe dans l'invisible, le monde invisible, mais aussi l'invisible des cœurs. Voilà. Je vous propose maintenant une petite prière, si vous voulez bien. Je vais pour cela vous laisser un temps de silence. Vous allez pouvoir prier à partir du commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous, priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, donne-nous la vision, apprends-nous que tout se passe en coulisses dans le monde invisible de la grâce qui travaille, qui féconde les cœurs. Oui, Seigneur, apprends-nous à regarder vers le haut comme ta parole nous y invite, et que ceci, Seigneur, fasse mûrir en nous des fruits d'espérance, de foi, de pardon, de patience et de charité. Amen. Et Seigneur, fort de cette conviction que ta parole nous a rappelée, maintenant nous prions pour tout ce qui fait obstacle dans nos vies, à ta grâce, et nous prions aussi pour nos frères qui sont loin de toi, et pour ce monde qui semble t'ignorer. Amen. J'espère que ce moment passez avec la parole de Dieu en ma compagnie, vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Fin de l'enregistrement.